ICF.
C'est du sport. Notre invité aujourd'hui, Thierry Renaud, 1m76, 72 kilos. Il est guide de haute montagne, guide de Chamonix. Voilà Thierry Renaud, bonjour.
Bonjour.
Cette émission a ceci de particulier qu'on l'enregistre en duplex. Donc c'est une émission de RCF Vendée, mais réalisée grâce au concours de RCF Haute-Savoie. Vous êtes dans la bonne ville d'Annecy. Et je crois d'ailleurs que vous attendez la neige, mais qu'elle ne vient pas dans votre pays.
Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, ils n'attendent même pas pour la semaine et les vacances arrivent. On n'a pas un centimètre.
Voilà. Bon, mais vous allez voir, elle va tomber. Alors ce matin, place à l'aventure sportive, mais aussi à l'aventure spirituelle, on va s'en rendre compte. Vous êtes breton, né à Rennes. Alors on s'attendrait à ce que vous soyez marin. Eh bien non, c'est la montagne qui vous a séduit. Vous aviez 15 ans, vous étiez en vacances chez un oncle à Chamonix. Alors qu'est-ce qui d'emblée vous a séduit, je crois que le mot n'est pas trop fort, dans cette montagne?
La grandeur de la nature, la sauvagerie des lieux, et ce qui me rappelait quand même profondément les grands espaces marins malgré tout, mais je pouvais me l'approprier en tout cas, c'était... quelque chose.
C'était votre affaire.
De nouveau.
Ouais. Ouais. Mais en Bretagne, déjà, vous aviez un contact avec la nature, je crois, non?
Oui, oui. Avec mon père, on nous emmenait à la pêche, nous faisions du bateau. J'avais mon petit bateau très jeune, déjà à l'âge de 6 ans.
Oui.
Et on allait souvent chercher des champignons. À la chasse, après il a arrêté la chasse, mais voilà.
Alors, l'endroit où on va en reparler à l'instant, là, l'endroit où vous découvrez la montagne, donc c'est Chamonix, c'est tout près, je crois, du glacier des Bossons. Alors, le glacier des Bossons, c'est le glacier qui descend le plus bas, il descend très très près des habitations. On peut facilement le toucher de la main sans avoir une longue randonnée à faire. Alors, il faut préciser dans votre histoire, parce que tout ce qu'on va dire aussi a sa racine dans cet événement, vous avez vécu, donc à 15 ans, vous deviez être en troisième quand vous découvrez la montagne, et au début du collège, vous vivez la séparation de vos parents. Alors, le résultat était assez rapide, vos résultats scolaires qui étaient plutôt bons au piqué du nez. Vous arrêterez d'ailleurs d'étudier en première. Je me souviens plus, il y avait un professeur ou un directeur de collège qui avait fait une remarque sur votre bulletin scolaire. C'était comment déjà ?
Ouais, la passion a été tellement fulgurante, la passion pour la montagne, que je ne pensais plus qu'à ça.
Et oui.
Je faisais des week-ends prolongés en escalade, et puis un professeur en première avait annoté, le directeur de collège avait annoté, Thierry daigne parfois sécher l'escalade pour venir en cours.
Voilà, bon. Tout un programme. Bon, on le dit avec le sourire, mais disons qu'à l'époque, je crois que vous étiez surtout dans le ressentiment, dans le refus de l'autorité. Et c'est un peu la montagne qui vous a sauvé. Et alors, dès le départ, vous découvrez la montagne, et je dirais que vous êtes, au départ du moins, un autodidacte de la montagne. Vous allez sur le fameux glacier des Bossons, et là, vous faites quoi? Vous imitez les guides? Vous cherchez à faire des choses par vous-même?
Oui, c'est-à-dire que j'étais tellement près du glacier, mon oncle m'avait emmené une fois, j'avais vu où il planquait les crampons et les piolets, et puis quand lui il était au boulot, je prenais le matériel, et puis j'y allais tout seul, et puis je voyais les guides qui emmenaient leurs clients, qui leur faisaient faire du 10 pointes, du piolet rampe, piolet canne, enfin toutes les techniques.
Oui, c'est différentes techniques.
Essentielles, ouais. Et moi je répétais à volonté tout ça, je copiais, et puis après j'y allais encore dans mon coin, continuer, et voilà, je bachotais complètement.
Ça progressait
Ah oui, oui. Oui. Très rapide, oui.
Et vous n'avez pas pris de risque, vous, parce qu'au Bosson, il y a des petits murs verticaux, là, vous ne les faisiez pas quand même.
Oui, alors là, c'est toujours pareil. Sur le glacier des Bossons, à l'époque, parce qu'on ne peut plus y aller, il a tellement reculé, il est devenu tellement raide, et il y a des effondrements, mais à l'époque, il y avait des vasques, des cuvettes, on pouvait pratiquer même des petits murs un petit peu raides, mais si on glissait dans le fond d'une cuvette, on risquait pas d'aller beaucoup plus bas. Il y avait toujours le risque de se tordre un pied, mais rien de très grave.
Très grave, oui.
Voilà.
Alors, je lis là sur une photocopie d'une revue du Club Alpin où vous aviez été interviewé. On disait d'emblée Thierry Renaud compte parmi les meilleurs glaciéristes français. Alors, les glaciéristes, ce n'est pas les gens qui fabriquent des glaces à la vanille ou autre parfum, c'est des gens qui pratiquent l'escalade essentiellement de cascades gelées, hein. Alors, vous dites en fait, avant d'être un glaciériste, j'étais d'abord un rechassier. C'est curieux, la sonorité, ça fait penser à carnassier, mais c'est pas ça. Donc vous pratiquiez d'abord le rocher, et quand vous avez découvert le rocher, comment dire, l'escalade était en train d'évoluer, quoi. Le matériel était plus simple, on grimpait plus avec des gros brodequins, mais avec des chaussons, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre découverte en tant que rechassier qui va évoluer, pardon, vers le glaciériste?
Alors, le glaciériste et le rochassier, dans le début de ma pratique, ça a été assez mêlé au sens de la haute montagne. Mais la varape, elle, pratiquée à Fontainebleau ou en falaise, m'a fait quand même découvrir une gestuelle, et une gestuelle tout en finesse, tout en douceur, parfois en puissance. Mais voilà, c'est un
Ouais.
peu comme
Parce
une
qu'avant, c'était un
partition.
peu bourrin, non?
Oui, pas
Faut
forcément,
pas
mais
exagérer
il y
quand
avait
même,
des...
oui.
Non, faut pas exagérer quand même, hein. Il y avait des gens bourrins. Il y a toujours eu des gens un peu bourrins puis des gens plus délicats. Voilà, c'est pas la question. Mais en tout cas, ce qui était nouveau, c'était surtout l'escalade sur cascade de glace, parce que la glace, j'en faisais déjà en montagne, hein, comme des grandes faces nord ou des goulottes. Mais la cascade de glace était arrivée en France dans le début des années 80, et moi j'étais en plein dedans, en plein cette nouvelle mouvance qui était de grimper sur les cascades d'eau gelées. Et les
Ouais.
cascades d'eau gelées, c'est des formations délicates
Oui, c'est comme
et
du
qui peuvent
cristal finalement.
parfois, oui, c'est cristallin, il y a des glaces très variables, très variées, et des supports, des matières qui peuvent être très fragiles, et donc qui sont et à la fois en même temps physiques et verticales. Et donc c'est vrai que la pratique d'un rechassier fin, délicat, sur une matière délicate, ben ça se transposait tout à fait. Et là, j'ai pu vraiment
Est-ce qu'on peut
exprimer...
dire que vous avez un petit peu été à l'avant-garde de ce mouvement?
Nous étions plusieurs, j'étais un de ceux qui... Oui, j'en étais un
Donc vous
peu...
faisiez partie de l'avant-garde si vous n'étiez pas le seul, quoi.
Oui, non, pas le seul, non, faut pas...
Ouais.
Même dans les autres pays, il y avait aussi... Voilà, au début, on voit que la France, on est un peu franco-français, mais après, quand on ouvre les yeux, on voit que les Anglais
Ouais.
faisaient, les Américains aussi, chacun avait sa
D'accord. Et
pratique.
alors, qu'est-ce qui vous pousse à cette époque de votre vie, quoi? C'est la recherche de la performance, la recherche de la nouveauté, c'est quoi dans...
Moi, ce qui me pousse vers la pratique de la cascade de glace, d'ailleurs là, je ne parle pas justement de glaciériste, mais de glacadeur, si on veut trouver un
Glascadeur,
terme, ouais,
allons-y
si
pour
on
ce
veut trouver un
néologisme.
terme un peu plus approprié,
Ouais.
qui est peu utilisé d'ailleurs. Mais bon, ce qui me pousse vers cette pratique au départ, ben, d'abord, j'ai eu vent que ça existait, puis quand j'ai vu ces formations, j'ai trouvé c'est l'aspect esthétique, fragile, et le fait de monter sur de l'éphémère, sur des choses qui passent le temps de parfois un mois, un jour, 2 jours, ça dépend des cascades. Ça peut être très rapide, ça peut être un peu plus long en hiver, mais en l'occurrence, après, ça redevient de l'eau qui coule, et puis ça regèle, et ainsi de suite,
C'est pour
tous
la
les ans.
beauté du
Donc,
geste, là.
oui, puis la beauté des lieux, de ce qu'on y découvre.
Ouais.
Et effectivement, dedans, en plus, vient se rajouter la beauté du geste, une forme artistique de l'escalade, quoi,
Ouais.
qui
Mais
m'intéresse,
à
quoi.
cette époque, vous vivez aussi un petit peu de, comment on appelle ça, d'expédition sponsorisée. Il y a un peu la recherche aussi, quand même, de quoi? De la reconnaissance, de la performance?
Oui, alors bon, tout ça est un petit peu entremêlé, évidemment, il y a ce qui appelle en premier, et puis ensuite quand ça marche, et puis qu'il y a le regard des autres, et bon, bah, ça forcément ça procure un certain plaisir, une certaine forme de reconnaissance dont je devais au fond de moi avoir besoin, hein, surtout quand
Oui,
avec une histoire un
avec
peu
l'histoire qu'on
tourmentée.
a évoquée tout à l'heure, oui, bien sûr.
Voilà, et puis tout ça découle vers une pratique régulière, quelques performances, quelques belles réalisations, la possibilité d'aller gagner quelques sponsors pour pouvoir vivre sa passion de façon plus régulière. Évidemment, j'étais en plein dans la mouvance, donc les sponsors sont arrivés assez nombreux. Voilà.
Voilà. Bien. Écoutez, on va prendre juste une petite pause musicale. Enfin, vous m'aviez indiqué parmi les chanteurs que vous aimez bien Nougaro. J'ai pris les quatre boules de cuir parce qu'elle évoque un sport, un tout autre sport, qui est la boxe, mais aussi très ambivalent. On ne sait pas si l'adversaire est un adversaire ou un partenaire. Allez, on s'écoute Nougaro.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe, aux déesses de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, boxe, boxe. Lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Boxe, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Boxe, boxe, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Boxe, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de champion. Boxe. Quatre boules de cuir et soudain de qui roule, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir. Boxe, 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 boxe.
C'était Claude Nougaro qui nous chantait la boxe et nous on revient à l'alpinisme avec notre invité aujourd'hui Thierry Renaud qui est à Annecy. Donc merci à la station de RCF Haute-Savoie de prolonger notre travail. Vous êtes bien sûr sur RCF Vendée. Ne changez pas de longueur d'onde. Thierry Renaud, je voudrais maintenant qu'on évoque ce qui sans doute a été l'un des jours les plus décisifs de votre vie. C'était en février 93. Avec deux autres collègues guides, donc une cordée de trois, vous partez dans un lieu dit près de Samoins qui s'appelle la cascade du cirque de fer à cheval, c'est à Sixte exactement, et ce lieu où vous êtes, c'est une cascade qui s'appelle la Lyre, elle est gelée, et vous tentez cette cascade de glace, c'est une ascension, vous avez tout préparé minutieusement, et puis tout d'un coup, problème, alors racontez-nous ça.
Oui, c'était avec mes deux compagnons, et à 300 mètres du départ de la voie, j'étais au-dessus d'une terrasse, et puis je me suis
qui
retrouvé...
en tête donc, hein.
Oui, j'étais en tête, oui. Évidemment, mes compagnons étaient à l'autre bout de la corde, à l'assurance, hein, pour m'assurer. Et je me retrouve dans une longueur au-dessus d'une terrasse de neige dure. Donc, et je me retrouve à 30 mètres du sol dans une situation dans les 30 premiers mètres, j'avais mis quelques points d'assurance, mais qui étaient vraiment plus illusoires et symboliques que réels.
Pour le moral, quoi.
Pour le moral. Et puis à 30 mètres sol... en pleine paroi, enfin à 30 mètres sol au-dessus de cette vire,
oui, bien sûr.
Je me retrouve dans une situation où voilà, je n'avais aucune connaissance aucune.
Vous ne voyez pas où mettre des points d'assurance.
Oui, puis comment progresser?
Ah oui, en plus.
J'étais allé tellement loin déjà dans les 30 premiers mètres. J'étais déjà au-delà du niveau que j'avais déjà fait auparavant. J'avais déjà un peu dépassé mes limites.
Ce qui veut dire que si vous retombiez sur le sol, quoi. Vous
direz sur le sol, oui. Et puis surtout, en ayant déjà dépassé mes limites, je ne voyais pas comment j'aurais pu redescendre. De cet emplacement, même en désescalade, quoi. J'en aurais été a priori incapable, mais a priori j'étais aussi incapable de voir comment monter. Donc
d'accord.
J'étais dans une situation sans issue un petit peu, quoi.
Et on fait quoi? On panique à ce moment-là?
Ben, pas vraiment, non, en fait, parce que dans l'action, comme chacun sait, surtout quand on est bien préparé, il n'y a pas vraiment de place à la panique. Il y a juste un état de fait, un constat, et j'étais un peu de façon tendu comme un arc, détendu à l'intérieur quand même, mais affûté, et puis tous les sens en alerte, animal hein, presque. Je respirais la cascade, je la regardais, je la faisais teinter avec les piolets, puis j'avais toujours pas de réponse. Et là, qu'est-ce qui me restait?
Vous avez pensé au pire là?
Oui, tout est analysé. Je voyais la terrasse dessous moi. Si je tombais, si au moindre faux pas, et puis c'était d'une fragilité extrême, au moindre faux pas, moindre rupture d'équilibre d'un pied ou d'une main, le reste de mes points d'appui aurait cédé aussi.
Tout partait.
Et puis je partais avec même des bouts de glace et puis je partais au sol.
Ouais.
Mes compagnons étaient... J'étais dans un moment de solitude intense, puisque eux ne disaient rien, ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose. Ils étaient dans. Il y avait le lien symbolique de la corde, mais la corde ne servait
ça plus à rien,
à grand chose. Quoi.
Vous avez pensé à la mort, là?
Oui, tout à fait. J'ai pensé au pire, et au pire à mes yeux, à ce moment-là. Et puis j'ai. Donc. Arrive un moment où j'ai appelé au secours profondément, intérieurement.
Mais vous appeliez, Dieu, vous appeliez l'inconnu, comment?
Alors, je ne peux pas dire ça là maintenant, parce qu'à l'époque, j'étais aussi en fracture, bien qu'ayant une éducation religieuse jusqu'à un certain âge. Et puis après, tout est parti à volo, un petit peu.
Donc vous appelez.
Et là, j'appelle au secours. Tout simplement, quoi.
Intérieurement.
J'appelle au secours à quelque chose de plus fort que moi, quoi. Je veux dire, voilà, à quelque chose qui me dépasse, qui est ailleurs, à une force, à trouver de la force ailleurs, quoi. Autrement, quoi. Et puis, à ce moment-là, je crois pouvoir dire, j'ose dire que j'ai reçu une parole, puisque elle était, c'est pas le fruit de ma pensée, c'est une parole, vraiment, je l'ai vécue comme la recevant de.
D'ailleurs.
D'ailleurs, et d'autres que moi-même. Et cette parole m'a profondément libéré. C'était une parole de libération.
Oui, elle disait quoi, cette parole, si on peut la verbaliser?
Elle disait n'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, c'est une porte vers un autre possible. Voilà, et pour moi, ça a été une profonde libération. Comment dire? J'ai pris trois grandes inspirations. Ça a été un réconfort, comme une paix intérieure. Et j'ai pris trois profondes inspirations, comme je ne pensais pas pouvoir respirer auparavant, qui allaient vraiment profondément au fond. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment dans le ventre, très au fond. C'est pas la cage thoracique. Ça a découlé sur vraiment un sentiment de plénitude. À chaque respiration, j'ai l'impression de m'habiter un peu plus moi-même.
Ouais.
C'est-à-dire que, comme s'il y avait, ça avait rassuré quelque chose en moi, ou un être, ou l'enfant en moi, je ne sais pas comment exprimer ça, mais, et qu'il a pris la dimension de ce corps d'adulte, ça a été plus de l'ordre de l'incarnation, plutôt que d'un regard extérieur, mais... De fait, je me suis mis à monter.
Ouais. Voilà. Et ce moment qu'on est en train de raconter, on verra tout à l'heure, il a changé votre vie, en fait. Hein. Ça n'a pas été non plus une illusion d'un instant. Comme la pendule tourne très vite, la voix n'était pas finie. Et il y a eu un autre moment symbolique assez fort, hein, où vous allez rentrer dans la cascade, c'est ça? plus haut, quoi, une fois passée la difficulté.
Ah oui, parce qu'au-dessus, il reste encore une, deux, trois longueurs de
Ouais.
cordes.
Donc trois
C'est à
longueurs,
peu
ça fait quoi? Une
près,
centaine de mètres au moins.
oui, 100, 100, entre 100 et 120 mètres. Hein,
Ouais, d'accord.
voilà, 120 mètres de cordes.
Donc vous rentrez dans la cascade, dans un
Voilà,
trou.
la longueur suivante, donc après avoir surmonté ce passage, je fais monter mes compagnons. On monte encore une longueur et puis on se retrouve sur un petit pont de glace entre le rocher et la cascade. Et puis là, la dernière longueur, il a fallu monter, que je rentre dans la cascade. D'abord, j'ai eu comme d'énormes stalactites à faire tomber et rentrer à l'intérieur de la cascade. Là, à l'intérieur, la glace n'était plus cassante, mais douce, humide. Il y avait comme de la chaleur à l'intérieur d'une cascade, finalement, parce qu'elle est préservée du froid extérieur. Elle est en contact avec la roche qui est, elle, voilà, ça dégage aussi de la chaleur, la terre. Donc, et il y avait une sorte de petit tunnel et je suis monté dedans. Et là, il a fallu que j'étais vraiment dans un univers confiné. Il a fallu que je passe les épaules, que je taille. Ça faisait mal. C'était un peu douloureux, hein. Il a fallu que je taille la glace parce que le passage était trop étroit. Et puis, d'un coup, voilà, j'ai dégagé. Alors, je suis sorti à l'air libre. Et là, c'était un ciel. Il faisait nuit. La nuit était tombée entre-temps. Ciel étoilé, pur. Silence total et un cri, quoi. J'ai vraiment eu le sentiment d'une libération, quoi, un peu comme une naissance, symboliquement, quoi.
Ouais,
Donc, ça a
une
été.
seconde
Et je
naissance
suis.
en quelque sorte.
Et puis, j'ai fait encore quelques mètres et je suis arrivé sur le plateau. Et puis, j'ai pu commencer après à redescendre. Mes compagnons n'ont pas fait cette dernière longueur. Ils m'ont attendu.
Ouais.
Je suis descendu à rappel. Je les ai
Je
rejoints.
conclurai ce petit passage, là, enfin petit passage, ce passage important là, que vous venez nous raconter par une phrase de vous que j'ai trouvée dans une revue. Cette phrase, elle disait, je suis en train de la rechercher, voilà, ça y est, comme une brebis égarée, Dieu est venu me chercher là dans ma passion.
Oui, c'est ce que je reprends souvent, oui. Dieu est venu me chercher dans ma passion. J'ai d'ailleurs cherché à aller ailleurs pendant tout le chemin qui a suivi. J'ai cherché à aller ailleurs, partout, chercher où était ma place. Et puis finalement, chaque fois, j'étais ramené à ma passion, à mon métier, à ma vie de guide, et puis à ma passion d'escalade au milieu des compagnons de route.
On retrouve Thierry Renaud à Chamonix. Il est chamoniard désormais, mais il est à Annecy. Donc vous venez de nous raconter ce moment qui est un moment de conversion, de retournement de votre vie. Mais bon, le retournement, je pense qu'il était déjà commencé. Et une chose qui était importante pour vous, c'était la découverte du Hogar. Vous y êtes allé plusieurs fois. Vous avez grimpé donc dans le désert, dans le Hogar. Et en quelque sorte, vous vous êtes laissé habiter par cet espace de jour, mais même de nuit. Je crois que vous avez été happé un peu par le désert, même la nuit, non?
Oui, alors ça, c'était des expériences de désert bien avant ce dont je viens de
Oui,
parler,
et
hein,
qui
en
préparait
cascade,
peut-être, hein.
et qui préparaient peut-être. Bon, un compagnon était passionné de désert, hein, mon ami Pierre, m'a proposé d'aller là-bas, et puis c'est vrai que
Mais la nuit, il n'y avait rien à voir.
il n'y avait rien à voir, et puis on avait emmené plein de matériel pour grimper, mais finalement le désert est tellement captivant qu'on oubliait de grimper, et puis on était plus dans la contemplation, dans vouloir aller toujours se laisser attirer au
Mais
désert.
la nuit, vous voyez quoi?
Ben, la nuit, voilà, moi j'étais sous la voûte céleste, en fait je regardais les étoiles, et j'ai passé des nuits entières sans dormir, mais sans insomnie non plus, hein. Voilà, être bien à contempler, à méditer.
Et le désert, il vous disait quoi? Il vous disait quelque chose?
Alors, dans la nuit, c'était vraiment une contemplation pure, un abandon. Et puis, par contre, je me souviendrai toujours une fois au passage d'un col, je pense que c'est du côté de la Sécrè, mais en redescendant donc vers Tamanrasset. J'ai vraiment eu cette dimension. Je me suis senti tout petit, mais
Tout
tout
petit et
petit
ridicule.
au milieu du. Non, pas ridicule, non. petit, mais je comptais quand même. Je faisais partie de tout cet univers qui était immense. J'étais petit, mais aussi petit que je sois, j'avais de l'importance. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Ça m'a saisi et ça m'a donné vraiment une dimension aussi. Ça m'a redonné à nouveau une dimension spirituelle à ma vie, même si il y avait une fracture toujours pareille,
Alors, on va continuer à grands pas. Hein. Après
d'accord.
l'aventure de tout à l'heure, là, vous allez être, comme on dit, regardant dans le monastère du Grand Saint-Bernard. Vous aviez envie d'être moine, finalement, vous ne serez pas. Vous êtes aujourd'hui marié et père de deux enfants. Et donc, vous vivez un certain temps là. Qu'est-ce qui vous a frappé dans la vie monastique telle que les moines le vivaient et le vivaient en particulier à votre égard?
Ben, ce qui m'a frappé au monastère du Saint-Bernard, c'était la bienveillance, la communauté fraternelle, le partage. Et puis moi, j'arrivais un petit peu là avec mes difficultés. Parfois, je suis resté plusieurs jours, j'ai passé 6 mois là-bas, tout un hiver. Et parfois, je restais 3 jours, 3, 4 jours enfermé dans ma chambre.
Alors que
Jamais eu
oui,
la.
la vie monastique, hein, c'est très réglé, hein. Donc
Oui,
là,
c'est
vous
très
étiez
réglé.
complètement à côté, quoi.
Ah ben oui,
Et on
c'est-à-dire
vous a
qu'il y
pas
a
fait de remarques.
pas du tout, non, il y avait une bienveillance et puis pas de jugement et puis j'étais le père Gabiou, donc était père et guide de haute montagne aussi. Il venait m'apporter à manger, il déposait un petit plateau, il me disait tu descendrais quand ça ira et puis voilà. Et
Ouais.
puis ça donne envie d'aller parler et puis surtout de revenir. Donc je revenais, et puis je pouvais reprendre ma place aussi simplement que cela. Et ça m'a fait un bien fou de me savoir accueilli, quel que soit
Ouais.
mon état psychologique, quel que soit
Alors aujourd'hui,
mon bagage,
on
quoi.
va y arriver au temps présent, on va passer très vite malheureusement. Hein, il faudrait... Malheureusement, il n'y a pas de prolongation, c'est pas comme dans les matchs de foot. La montagne, pour vous, c'était le lieu de la rencontre de Dieu, mais je dirais, j'ai l'impression que la rencontre, elle se fait surtout dans les rencontres humaines que votre métier de guide vous permet de faire. Alors vous rencontrez des gens comme vous, alpinistes de haut niveau, sportifs de haut niveau, puis le commun des mortels. Je dirais, il y a... Tout nourrit votre. Même les gens qui veulent faire le Mont Blanc parce que c'est simplement la mode, vous vous nourrissez de ces rencontres, vous y rencontrez le Seigneur.
Oui, c'est vrai que j'ai une clientèle fidèle et puis de gens passionnés qui reviennent
Ouais, mais
souvent.
avec les autres.
Mais donc là, les choses sont assez simples. Mais avec les autres, c'est souvent le fruit du hasard. Et en fait, je me rends compte que le hasard fait souvent bien les choses si on veut bien se donner la peine de l'accueillir. Et il y a toujours eu des moments exceptionnels, même pour des classiques. Tout guide qui a plus 20 ans d'expérience ou de pratique, s'il peut éviter d'aller au Mont Blanc en plein été, il
Il
évite. Et
évite, oui.
pourtant,
Et pourtant, même là, il y a des
parce qu'il y
rencontres.
a beaucoup de monde, et pourtant même là, parce que c'est une très belle montagne après, hein,
Ouais.
c'est d'autres choses qui nous font l'éviter, hein, c'est peut-être la
Alors,
foule,
je vais
mais
être obligé de vous couper parce
oui.
que j'ai dit qu'il n'y avait pas de prolongation. Puis il y a des tirs au but, par contre. Le tir au but, c'est le portrait
D'accord.
chinois. Alors, il faudra qu'on se donne un autre rendez-vous un jour, peut-être. Donc, Thierry Renaud, si vous étiez une plante, vous seriez quelle plante?
Oh là, moi j'ai du mal à répondre à cette question.
N'y en a aucune qui vient, non.
Il n'y en a aucune qui vient.
Ouais. Bon, on va passer à la seconde alors. Si vous étiez un animal.
Il y en a deux qui me sont venus. Est-ce
Et
que j'ai le droit de
allons-y
dire les
allons-y
deux?
pour deux, ça compensera la plante.
Il y a le gypaète, hein, l'aigle,
Oui.
mais le gypaète qui tourne dans la montagne parce qu'il est sur les falaises, tout ça, enfin voilà.
Oui, d'accord.
Et puis la
Vous êtes
tortue.
pris pour un aigle, là, des fois? Non, quand même.
Non, mais j'aime bien parce qu'il englobe tout, il a un regard perçant, il voit les abîmes,
Ouais,
il
ouais.
survole, il est. Voilà,
Saint Jean avait comme symbole, peut-être pas le gypaète, mais l'aigle. Hein. Alors, l'autre animal.
L'autre animal, c'est la tortue. Elle a un côté SDF qui me fait marrer parce que elle porte sa maison sur elle, donc
Mmh.
voilà,
Eh
elle dort
bien.
où elle veut et
Et
puis
si vous
c'est
étiez un
pour elle.
édifice?
Ah, un édifice, alors là c'est pareil, j'ai du mal. Un bâtiment ou un édifice?
Un édifice, ça peut être un
Ça...
bâtiment, ça peut être autre chose, ça peut la muraille de Chine, je sais pas, un
Je sais
pont.
pas, bon, j'ai envie de dire un calvaire breton.
Un calvaire breton, voilà. On a quand même, on a retrouvé la Bretagne. Elle était au commencement, elle était l'alpha et l'oméga de cette émission. Écoutez, on va devoir se quitter. Je vous souhaite beaucoup de neige. Et c'était donc C'est du sport sur RC Vendée avec le concours de RCF Haute-Savoie. Notre invité, une aventure sportive et spirituelle, Thierry Renaud, guide de Chamonix. Merci beaucoup.
Merci Claude.